religions du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La sortie cette semaine du livre « Des profondeurs de nos cœurs » aux éditions Fayard, coécrit par le pape émérite Benoît XVI et le cardinal Robert Sarra, et qui signe ensemble l'introduction et la conclusion, est un pavé dans la mare. Il s'agit de deux réflexions conjointes de haute portée, spirituelle et théologique, pour demander au pape François de ne pas engager l'Église sur la voie de l'ordination d'hommes mariés, comme cela a été majoritairement approuvé lors du synode sur l'Amazonie à l'automne dernier et dont on attend la publication des conclusions. Cet ouvrage pose la question des coulisses de sa publication. D'ailleurs, suite à la controverse qu'il a suscitée, dans les prochaines éditions, le livre ne devrait plus comporter la signature commune qui figure aujourd'hui au bas de l'introduction et de la conclusion. En tout cas, c'est la première fois qu'est soulevée de façon aussi aiguë la question du statut d'un pape émérite qui a renoncé à sa charge, comme le souligne le vaticaniste italien Marco Politi, auteur de « François, un pape parmi les loups » chez Albin Michel, et qui doit publier au printemps prochain « La solitude de François » aux éditions Philippe Ray.
On doit être très clair, c'est une interférence de la part de Benoît XVI sur un procès de gouvernement, de décision du pape François. Et ça, ce n'est pas possible de la part d'un pape émérite. Déjà l'année dernière, il y avait eu ce problème quand le pape François avait parlé des racines, des abus, en parlant du cléricalisme, du péché de cléricalisme, et Benoît avait publié en Bavière un essai pour dire que les racines de l'abus, ça dépend des années 60, de la sexualité, de l'idéologie de sexualité des années 60 et comme ça. Alors, déjà là, on avait vu qu'il y avait une contraposition entre la position de Benoît comme pape émérite et la position du pape François. Mais cette fois, c'est plus grave parce que le pape doit décider qu'est-ce que faire après la synode sur l'Amazonie. Il doit décider s'il donne ou non l'approbation à l'ordination des hommes mariés qui sont déjà diacones permanents à être sacerdotes, à être prêtres. Et les textes de Ratzinger et les textes de Sarra sont contre. Ils posent un veto.
Alors, est-ce que l'on peut se poser la question d'un pape manipulé? C'est-à-dire d'un pape qui aurait effectivement produit une réflexion sur le célibat, donc défendant le célibat des prêtres, mais que dans le même temps, son nom assemblé à celui du cardinal Sarra dans un livre, ça serait une forme d'abus sur une personne qui est quand même déjà âgée et on le sait très fatiguée.
Je ne pense pas à la thèse de la manipulation de Ratzinger. Je ne pense pas qu'il y a un mystère, une piège dans laquelle Ratzinger est tombé. Parce que Sarra, c'est une personnalité très conservative, mais c'est une personnalité très honnête. Il est connu avec une grande spiritualité. Il a démontré avec des mails qu'il y a eu un interchange entre Ratzinger et Sarra pendant 3 mois, septembre, octobre, novembre, et qu'il avait envoyé les épreuves du livre à Ratzinger et à son collaborateur, Mgr Genswein. Alors aussi, dans le démenti de Genswein, c'est pas écrit que, par exemple, c'est faux de signer avec Benoît l'introduction et la conclusion qui sont des introductions et conclusions communes de Benoît XVI et de Sarra. Alors c'est très clair que Ratzinger avait donné sa approbation à signer conjointement l'introduction et la conclusion. Alors on ne peut pas changer les faits. Et le cardinal Sarra a été très honnête en toute sa action. On ne peut pas penser que c'était un piège du cardinal Sarra. Au contraire, on doit penser que Ratzinger avait voulu exprimer ses préoccupations sur la possibilité du changement de célibat, mais ce n'était pas rendu compte que publier un texte comme il a écrit dans ce moment, c'était une interférence très grave dans l'action du pape François. Je pense que c'était mieux si Monseigneur Genswein, comme ce premier conseiller de Ratzinger, avait essayé de freiner Benoît XVI.
Alors, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que ce livre va influencer le pape François et qu'il pourrait reculer sur cette annonce que l'on attend, à savoir effectivement la possibilité, dans des lieux très reculés du monde, où il y a très peu de prêtres, d'ordonner des viri probati, c'est-à-dire des hommes mûrs, des diacres mariés?
Toute cette histoire fait partie d'une grande lutte, une sorte de guerre civile à l'intérieur de l'Église catholique où les conservateurs comme Sarah et beaucoup des autres, aussi le cardinal Ruini, ancien président de la conférence épiscopale italienne, a déjà demandé publiquement au pape de ne pas changer la loi du célibat. Mais d'autre côté, le pape a des préoccupations pastorales. Et il y a vraiment un problème si dans certaines parties du monde, il y a des communautés chrétiennes qui peuvent célébrer l'Eucharistie seulement une fois ou deux fois par an. Alors nous sommes véritablement dans un moment où il peut avoir un grand changement dans la loi et l'organisation de l'Église catholique.
Dernière question, Marco Politi. Est-ce que vous pensez que cette année 2020, précisément, va être une année où ces tensions vont s'exacerber au sein de la Curie, entre les conservateurs et les progressistes?
Nous avons déjà vu, il y a 5 ans, il y a une escalation toujours plus forte avec tous les moyens contre la politique des réformes ou les essais des réformes du pape François. Aussi le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, a dit qu'on peut lire des mots très forts, très agressifs contre pape François, et on ne doit pas oublier qu'il n'y a pas seulement une opposition ouverte, mais il y a aussi, comme dans la Révolution française, un marée qui est contre le pape et qui ne s'exprime pas.
Vous pensez à l'opinion, à une partie de l'opinion publique, j'allais dire, chez les catholiques? Il y a une part, effectivement.
Oui, chez les catholiques, chez les évêques, les prêtres, les cardinaux, il y a des personnes qui ne parlent pas ouvertement, mais qui ne partagent pas les idées des réformes du pape François.
Le vaticaniste Marco Politi. Alors que le projet de loi bioéthique qui a été voté par le Parlement doit être examiné la semaine prochaine par le Sénat, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a publié cette semaine un communiqué appelant à une prise de conscience face à des dérives mercantiles des pays nantis, induites par certaines techniques, notamment la création d'embryons transgéniques. De même, concernant la PMA, la procréation médicalement assistée, qui sera ouverte avec cette loi aux couples de femmes et aux femmes seules, l'archevêque de Paris estime qu'il est monstrueux, ce sont ses termes, d'infliger volontairement aux enfants l'absence de père. De son côté, la Manif pour tous, qui a émergé en 2013 lors de la loi Taubira sur le mariage homosexuel, appelle, avec Alliance Vita, à manifester ce week-end à Paris contre ce projet de loi bioéthique. Lou Bémon de Senneville, journaliste au quotidien La Croix, a suivi le dossier bioéthique depuis le programme de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron à aujourd'hui et a publié avec le philosophe Martin Stephens « Et si c'était la fin d'un monde » aux éditions Bayard. Il y est question de PMA, mais aussi de GPA, la gestation pour autrui, autrement dit les mères porteuses, et aussi de la fin de vie, avec en deuxième partie toute une réflexion philosophique et spirituelle. Alors première question posée à Lou Bémon de Senneville, comment voit-il la manifestation de ce dimanche ?
Alors, cette manifestation, c'est l'aboutissement en fait d'un mouvement qui est né en 2013, qui est le mouvement des manifs pour tous, qui est né contre le mariage pour tous et contre la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. Ce sont les mêmes organisations, ce sont les mêmes personnes qui manifestent, et donc elles considèrent que c'est un combat commun, qu'il y a un lien entre le combat sur la PMA et le mariage. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les opposants sont moins visibles, Est-ce qu'ils sont moins nombreux? Est-ce qu'ils sont découragés? Est-ce qu'ils considèrent que ça ne vaut plus le coup? Est-ce que certains aussi ont changé d'avis? Il y a sans doute un mélange de tout ça.
Oui, et puis la manif pour tous a été clivante. Au sein des paroisses, elle a laissé des traces. Et puis aussi, parmi les opposants à la PMA pour toutes, qui sont restés en retrait, il y avait la crainte d'être taxé d'homophobe.
En tout cas, ce qu'on peut retenir de 2013 dans l'Église catholique, c'est qu'il y a eu une sorte de double mouvement. Ça a produit une fracture des communautés assez forte, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, parce que l'Église s'est engagée d'une manière moins forte, moins frontale, peut-être avec plus de prudence, une rhétorique assez différente. Ça, c'est le premier mouvement, la fracture des communautés. Et un deuxième mouvement, ça a été quand même la prise de conscience dans un certain nombre de communautés, de diocèses, dans l'Église, hein, enfin en France, de la nécessité d'accueillir les personnes homosexuelles, avec une prise de conscience de la nécessité d'entamer un dialogue, de créer des groupes. Il suffisait pas de dire uniquement « on accueille les personnes homosexuelles, on n'a rien contre elles », mais il fallait aussi le faire, et c'est ce qui a changé dans l'Église depuis 2013. Et donc on peut dire que paradoxalement, cet accueil a été une des conséquences de la Manif pour tous de 2013.
Oui, donc on peut dire que l'Église a avancé sur cette question.
Oui, l'Église a avancé sur cette question. Alors, c'est pas pour ça que aujourd'hui les personnes homosexuelles sont accueillies à bras ouverts. C'est le sociologue Yann Raison du Clozio qui met assez bien en avant que l'homosexualité, la famille homoparentale reste quand même un point de crispation et reste un moteur de mobilisation en fait, hein, pour un certain nombre de catholiques qui voit dans, au fond, la famille homoparentale une menace ou une sorte de concurrence pour leur propre modèle, pour le modèle du couple hétérosexuel élevant des enfants. Voilà, et donc il met bien en avant que c'est, aux yeux de certains, une forme de concurrence ou au moins une. Comme si le couple hétérosexuel était minimisé en quelque sorte, son importance était minimisée.
Est-ce que les scandales d'abus sexuels au sein de l'Église ont pu jouer dans cette position plus en retrait par rapport au débat sur la PMA notamment et la GPA?
Alors, ce qui a joué, c'est qu'effectivement, si on compare par exemple à 2013, les scandales d'abus sexuels sont beaucoup plus présents et l'Église ne peut plus porter sa parole et son argument principal, qui était l'argument principal de 2013, de la défense de l'intérêt des plus petits. Voilà, cet argument-là n'est plus audible, ou en tout cas ne porte beaucoup moins dans ces semaines, ces mois où on entend beaucoup parler d'abus sexuels et de pédocriminalité au sein même de l'Église. Et donc le discours a évolué et le discours ne porte pas tant sur l'homosexualité et même le besoin des enfants, mais la question s'est beaucoup reportée sur la technique, avec une insistance des responsables religieux, des responsables catholiques, sur la place de la technique dans la procréation, sur la place de la technique dans la biologie, sur la place de la technique aussi pour l'être humain, avec à la fois un lien entre cette technique, la PMA, la GPA et aussi le transhumanisme. Donc voilà, on voit qu'il y a eu un glissement en fait sémantique, un glissement dans l'argumentation en fait des responsables catholiques.
Et dans son interrogation, à savoir effectivement où mettons le curseur, où posons les limites.
Oui, il y a une question des limites effectivement. En fait, la question qui nous est posée dans ces questions de bioéthique, c'est quelle est la limite de l'être humain, quelle est la limite de la procréation, jusqu'où on repousse ces limites, à partir de quel moment la médecine nous augmente plutôt que de nous soigner. La question de la médecine, elle se pose évidemment dans le champ de la procréation, et les responsables catholiques disent aujourd'hui, finalement, cette question de la PMA, elle redéfinit la médecine, parce que la médecine ne sert plus uniquement à réparer l'infertilité d'un couple, mais à permettre à un couple qui en a le désir, donc d'exaucer un désir, d'avoir des enfants. Et donc cet argument de la redéfinition du rôle de la médecine a été assez présent et est assez présent dans les débats, y compris chez les responsables religieux.
Oui, effectivement, l'Église catholique a distribué dans les paroisses tout un dossier assez technique sur les questions de bioéthique.
Oui, en fait, aussi bien la Conférence des évêques de France que le diocèse de Paris, aussi de son côté, ont distribué dans beaucoup de paroisses, ça a été très présent à Paris en particulier, on distribuait dans beaucoup de paroisses des fiches en fait bioéthiques au moment des états généraux de la bioéthique, donc début 2018, pour donner des repères en fait aux catholiques sur des thèmes aussi divers que la PMA, la fin de vie, le transhumanisme, les questions aussi de modification génétique. Et effectivement, avec un niveau de technicité assez haut et une volonté vraiment de donner à penser aux catholiques qui lisaient ces fiches.
Est-ce que l'on peut parler d'un débat apaisé ? Parce que ce mot apaisé, on l'a entendu beaucoup, hein, les membres du gouvernement, le président aussi, hein, parlaient de débat apaisé, qu'il fallait un débat apaisé. Cela en référence à la Manif pour tous en 2013, qui a été tout sauf un débat apaisé. Et est-ce que selon vous, Loubé Bonsenville, qui avait suivi donc ces débats sur la bioéthique, est-ce que selon vous, le débat a existé déjà, vraiment, un vrai débat, et est-ce que c'était un débat apaisé ?
En fait, l'apaisement et l'expression de débat apaisé, il vient d'assez loin, parce qu'il est utilisé dès la campagne d'Emmanuel Macron. Et voilà, il y a tout de suite cet objectif de vouloir apaiser le débat, effectivement, à contrario avec ce qui s'est passé en 2013. Et il y a vraiment une volonté du candidat Macron à l'époque de ne pas reproduire ce qu'il identifie comme des erreurs. Parce qu'à l'époque, Macron est à l'Élysée, auprès d'Hollande, et donc il voit toutes les crispations de l'intérieur, hein, que la manif... pour tous, c'est que les oppositions à ce projet de loi Taubira produisent. Et donc, il nourrit cette volonté assez rapidement d'organiser un débat, et c'est pour ça qu'il fait les états généraux de la bioéthique entre janvier et avril 2018, avec une volonté de pouvoir faire parler tout le monde, de pouvoir faire entendre tout le monde. Simplement, ces états généraux de la bioéthique, on n'a jamais vraiment su quels étaient leurs objectifs. Est-ce que l'objectif de ces états généraux, c'était d'entendre tout le monde ? Ou est-ce que l'objectif des états généraux, c'était de faire de la pédagogie autour d'un projet de loi ? Est-ce que l'objectif de ces états généraux, c'était au contraire de faire une sorte de sondage de la population pour pouvoir construire derrière des évolutions de la bioéthique ? Comme cet objectif n'a jamais été vraiment clarifié, tout le monde est sorti un peu frustré de cet exercice. Et ce qu'on peut dire, c'est que le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il va être débattu au Sénat la semaine prochaine, il est quand même en grande partie l'héritier de ce qui avait été défini dans le programme de Macron, donc dès la campagne, dès 2017.
C'est-à-dire la PMA pour toutes. Hein.
Oui, donc l'extension de la procréation médicalement assistée, effectivement, aux couples de femmes et aux femmes seules, mais aussi un certain nombre d'éléments sur la recherche sur l'embryon, avec une facilitation de la recherche sur l'embryon, aussi un certain nombre de choses autour des embryons chimères, c'est-à-dire la possibilité pour les chercheurs d'introduire des cellules humaines dans des embryons animaux pour pouvoir faire des recherches, notamment sur le développement d'organes. Voilà, il y a aussi des choses sur l'intelligence artificielle, il y a aussi des choses sur la conservation des ovocytes en dehors d'une raison médicale. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce projet de loi qui effectivement était en fait pensé depuis un certain nombre de mois, voire d'années.
Loubé Bonsenville, est-ce que l'on peut dire que c'est un échec, voilà, un véritable échec, hein, pour l'Église catholique, mais aussi pour les protestants et aussi les autres religions d'ailleurs qui se sont exprimées, hein, lors de la consultation à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un échec des religions ou bien, bon, voilà, est-ce qu'il faut considérer que bon, l'avenir après tout est fait d'évolution ?
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le projet de loi continue à être discuté, même si les grandes orientations en sont fixées. Mais là, effectivement, s'il y a une manifestation aujourd'hui, c'est parce que le projet de loi va être examiné au Sénat cette semaine. Il y a deux manières de répondre à votre question. Soit, effectivement, on dit que c'est un échec parce que les chrétiens, les tenants de l'anthropologie chrétienne, en fait, ne sont pas parvenus à faire changer le projet de loi. Et finalement, la PMA va vraisemblablement être étendue à la fin de l'année, hein, sans doute juste avant l'été. Soit on dit que le nouveau défi, en fait, pour qui cette anthropologie est importante, c'est de vivre dans un monde qui ne partage plus leurs valeurs. Et donc la question est de savoir comment est-ce qu'eux, ils continuent à dire ce à quoi ils croient, comment est-ce qu'ils continuent à se situer, comment est-ce qu'ils continuent aussi à accueillir le monde qui vient, même si il n'est pas forcément fondé sur les valeurs...
Sur le modèle plurimillénaire de la famille.
Exactement, et donc c'est ça aujourd'hui, je pense, le défi des religions, c'est comment est-ce que les chrétiens, puisque vous m'interrogez sur les chrétiens, peuvent vivre dans ce monde comme minorité et sans être non plus dans un réflexe de citadelle assiégée.
D'où votre titre, qui mérite un petit éclairage, « Et si c'était la fin d'un monde ?» Alors, c'est un regret, c'est une interrogation, a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre, Loubet Mansenville?
Ben, c'est un constat, c'est-à-dire que, de fait, il y a une page qui est en train de se tourner avec ce projet de loi bioéthique sur les modèles familiaux, sur la recherche sur l'embryon, sur des questions comme l'anonymat des donneurs de gamètes qu'on n'a pas, voilà, dont on n'a pas parlé là, mais qui est aussi un point important du projet de loi. Donc voilà, il y a une page qui se tourne. Certains considèrent qu'il est très heureux que cette page se tourne, et d'autres que, au contraire, c'est une forme de regret. On a voulu, en choisissant ce titre, ouvrir les deux possibilités, et c'est pour ça que dans mon enquête, je donne largement la parole, en fait, à la fois à ceux qui sont favorables à ces évolutions et en même temps ceux qui les craignent. Voilà, c'est le sens de la première partie de ce livre, puis après, dans une deuxième partie, dans un dialogue avec le philosophe Martin Stephens, de pouvoir essayer de penser ces évolutions, peut-être plus avec une perspective chrétienne. Mais voilà, c'est l'idée de pouvoir s'interroger sur la fin, pas du monde, mais la fin, voilà, d'un monde, au fond, et sur cette page qui se tourne.
Avec la perspective de l'ouverture de la gestation pour autrui, la GPA, à un moment donné de votre livre, un député très connu, hein, Jean-Louis Touraine, professeur de médecine, parle d'une GPA éthique.
Effectivement, la question de la GPA, en fait, elle est poussée assez fortement et elle est sur le devant de la scène, là, depuis quelques mois, avec des livres, en tout cas, elle est entrée dans le débat politique. Et effectivement, certaines personnalités politiques, notamment Jean-Louis Touraine, que vous avez cité, parlent d'une gestation pour autrui éthique, avec une nécessité, selon lui, d'encadrer la GPA avec des valeurs éthiques pour que les Français n'aient pas à partir à l'étranger pour recourir aux mères porteuses.
Le même Jean-Louis Touraine, donc, qui a dit qu'après la loi sur la PMA, il faudra une loi sur la famille du 21e siècle. On est en pleine idéologie, là, ou non?
En tout cas, il y a une volonté, effectivement, de remodeler assez largement et la famille et la procréation. Et Jean-Louis Touraine fait partie de ceux qui appellent à ce qu'il a appelé une procréation sans sexe, c'est-à-dire une capacité de mettre au service des désirs procréatifs la médecine et les capacités techniques de la médecine. Et effectivement, derrière, il y a une volonté de remodeler les modèles familiaux, mais il y a aussi une vision de la médecine, de la santé, de l'assurance maladie. Jean-Louis Touraine fait partie de ceux qui veulent transformer l'assurance maladie en assurance santé. En fait, ce projet de bioéthique, ce qui est intéressant, c'est qu'il est révélateur d'un certain nombre de lignes de force, de lignes de fracture qui sont portées par Jean-Louis Touraine et qui sont portées par d'autres aussi bien au niveau politique que philosophique que sociologique.
Est-ce que l'on va, selon vous, vers de nouvelles batailles, Loubet Mansenville?
La bataille essentielle, pour moi, elle portera sur la gestation pour autrui, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'automaticité juridique entre PMA et GPA, l'argument d'égalité va assez vite ressurgir et les couples de femmes ayant le droit d'avoir un enfant en recourant à la PMA, assez vite, les couples d'hommes vont demander pouvoir avoir un enfant eux aussi par la GPA. Et d'ailleurs, c'est une revendication qui commence à être portée par un certain nombre d'associations LGBT, par un certain nombre de collectifs, même si, voilà, on les entend pas encore tout à fait, mais c'est une petite musique qui commence à résonner et c'est l'un des débats majeurs qui va sans doute animer les débats sociétaux dont la France a le secret dans les mois et les années à venir.
Lou Bémont de Senneville, co-auteur avec le philosophe Martin Stephen, et si c'était La fin d'un monde, publié chez Bayard. Jean Delumeau, l'historien des religions, de l'enfer et du paradis, est décédé lundi dernier à l'âge de 96 ans. Né dans le catholicisme, il aura rapidement porté le regard distancié et critique du chercheur. Titulaire de la chaire d'histoire des mentalités religieuses de l'Occident moderne, Jean Delumeau aura su mettre au grand jour les mécanismes de la peur, notamment celle de l'enfer dans l'Occident chrétien, depuis le Moyen-Âge au siècle des Lumières. On retiendra notamment la peur en Occident et le péché et la peur, deux livres qui vont le faire connaître dans le monde entier. Nous l'avions rencontré en décembre 2015 au Collège de France pour son livre « L'avenir de Dieu » publié au CNRS. Il devait se montrer comme à l'ordinaire, affable, simple, limpide. Et je lui avais alors demandé si c'était son dernier livre.
Écoutez, je ne sais pas, je ne pourrais pas le jurer quand même, parce que je reçois encore des sollicitations. Simplement, la machine est fatiguée.
La machine est fatiguée, mais quand même fonctionne bien. Parce que c'est un livre très synthétique, et qui arrive à faire finalement le résumé et surtout à décrire votre parcours.
Bon, ça, c'est exactement ça. Principalement à partir de conférences, n'est-ce pas ? Conférences qui elles-mêmes résumaient mes livres. Simplement, je dois tenir compte, avec l'âge, que je me déplace difficilement. Aller travailler en bibliothèque, ça m'est pratiquement impossible. Ma vue baisse de façon irrémédiable. Par conséquent, j'ai du mal à travailler. Alors, je passe encore une partie de mes journées devant l'ordinateur, c'est vrai. Mais enfin, je ne peux pas dire que je suis de la première jeunesse.
Mais jeunesse d'esprit, malgré tout. Parce Merci. Que vous pouvez vous projeter, effectivement, aussi. En tous les cas, vous participez au débat contemporain.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, si j'en juge par les comptes rendus que j'ai déjà lus, sur ce livre dont nous parlons aujourd'hui,
L'avenir de Dieu,
il y a une audience, indiscutablement.
Et votre livre tombe à point nommé dans une période difficile. Oui. On en reparlera tout à l'heure, oui. La question de la peur que vous avez traitée.
Alors, je dirais à point nommé, oui et non. Parce que les attentats à Paris ont un peu détourné l'attention, si vous voulez, des livres de réflexion sur un passé même parfois lointain, voyez-vous. Là, actuellement, il y a quand même une prégnance de l'actualité qui fait que ça éloigne peut-être un peu d'ouvrages qui sont des réflexions sur une vie entière de travail.
On va revenir à vos premiers pas d'historien. On va commencer par Rome.
Oui,
vous arrivez à Rome, vous êtes vous êtes étudiant à l'école normale supérieure.
Non, je suis agrégé, jeune agrégé.
Jeune agrégé. Normal sup est derrière vous.
Oui, et l'agrégation aussi.
Et l'agrégation aussi, vous avez quel âge à ce moment-là ?
À ce moment-là, j'ai 24 ans.
24 ans, bon, ça marche déjà bien pour vous. Mmh. Et Rome va vous parler d'une autre façon. Vous voyez évidemment ce foisonnement architectural.
Oui. Je découvrais Rome, je n'avais pas d'idée précise. Enfin, je savais qu'il y avait des basiliques, qu'il y avait des palais, mais enfin, là, j'y ai vécu pendant 2 ans. Donc j'ai étudié un sujet qui était neuf, qui n'avait pas été étudié, la vie économique et sociale de Rome, ce qui veut dire au sens le plus large, la vie quotidienne. Mmh. Et ça, c'est un travail passionnant, de découvrir une ville qui s'est entièrement reconstruite à partir de 1450.
C'est ça, on est bien d'accord, c'est la Rome du XVe siècle.
XVe, XVIe et XVIIe.
XVe, XVIe et XVIIe.
Oui.
De là, l'étude suivante va être celle de la réforme. Qu'à Rome, bien sûr, vous devez sentir, évidemment, cette contre-réforme.
Si je dis mon séjour à Rome, n'y est pour rien.
Oui.
Et là, dans le livre dont nous parlons aujourd'hui, je raconte comment j'ai été amené à m'intéresser au protestantisme. Car j'ai été élevé, enfant, même jeune homme encore, dans la religion catholique traditionnelle. Et puis j'arrive à Marseille, en Hippocagne, et on avait 2 professeurs protestants. L'un qui a été assez connu après, Roger Mel, qui a été doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, avec qui, je dois dire, j'ai sympathisé. Bon. Mais il y avait un autre protestant, et moi, c'était la première fois que je voyais des protestants. Jacques Monod, comme de la famille, la grande famille.
La grande famille protestante.
Bon. Oui. Et nous donne à étudier en grec le discours sur la couronne de Démosthène. Moi, je ne connaissais pas grand-chose à Démosthène. Bon, mes camarades non plus, d'ailleurs. On se met à étudier ce texte. Et alors, on a tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Parce que Démosthène disait aux Athéniens de son époque, du IVe siècle, ce n'est pas parce que nous avons été vaincus par Philippe de Macédoine que nous étions dans notre tort. C'était transparent. Bon, l'homme avait l'air austère. Mais en fait, il était très gentil, très attentif, etc. Et à la fin de l'année scolaire, donc c'était en juin 41, il a invité ses cagneux et cagneuses à venir prendre un dessert, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger en 41, enfin, à venir prendre un dessert chez lui. Il habitait sur les hauteurs de Marseille, une maison d'ailleurs très accueillante et avec un grand jardin. Mes camarades et moi, nous arrivons. La première chose que nous voyons en entrant, c'est dans le jardin, un parterre désignant une croix de Lorraine. Le message était automatique. Bon. Alors, moi j'ai fait Hippocagne et Cagne, première année de Cagne, à Marseille. Après, je suis venu à Henri IV à Paris. Mais quand j'étais déjà Henri IV, et plutôt après la fin de la guerre, j'ai appris ce qui était devenu Jacques Monod, notre professeur, qui nous enseignait Démosthène. Eh bien, au printemps 44, il est parti au Maquis. Et durant l'été 44, son groupe a été repéré par les Allemands dans le Massif central. Et il a dit à ses camarades, vous allez dans cette direction. Moi, je reste ici. Il est resté là. Il a été arrêté par le groupe d'Allemands qui lui ont dit, où sont tes camarades? Il a indiqué la direction opposée. Ils en sont aperçus, ils l'ont fusillé. Voilà comment j'ai découvert le protestantisme. Et par conséquent, je ne dis pas que dans les écoles catholiques, on m'a dit des choses mauvaises. C'est pas ça. Mais enfin, c'était l'hérésie. Le protestantisme, c'était l'hérésie. Il n'y avait rien à faire. Bon. Et moi, je voyais des hérétiques admirables.
Ça devenait un défi donc pour vous, Jean de Limeau, que de vous lancer effectivement dans ce travail sur la réforme. Que vous a apporté, vous, en tant qu'historien catholique, j'allais dire, que vous a apporté la réforme? Quelle révélation la réforme vous a-t-elle apporté?
Alors, premièrement, qu'on pouvait être des saints et être protestant. Car le professeur que j'ai eu en Hippocagne à Marseille pour nous enseigner le grec et le latin était un protestant pieux. Et je savais depuis qu'il était un saint, depuis qu'il s'était dévoué. Alors, vous me direz, les protestants ne reconnaissent pas les saints, c'est vrai. Bon, donc je m'incline. Mais en même temps, pour moi, Jacques Monod est resté un saint, un modèle. Un modèle. Et par conséquent, je me suis dit que on m'avait donné du protestantisme une image sinon fausse, du moins incomplète. Et alors, à ce moment-là, comme j'avais en plus travaillé sur Rome au XVIe siècle, où il n'y avait pas que de bons exemples, je me suis dit qu'il fallait que je revoie mes positions. Donc, je me suis remis en cause comme chrétien, et comme chrétien qui serait désormais attentif à ce qu'on m'enseignait.
Jean de Limeau, en 1977, vous publiez « Le christianisme va-t-il mourir ?» donc avec un point d'interrogation. Et ce livre interroge l'état de la chrétienté au moment de la réforme. Et vous écrivez que lors de l'émergence donc, du protestantisme, il y avait en fait une grande ignorance du christianisme, notamment dans les campagnes. Et vous écrivez que ce rappel historique peut nous éclairer aujourd'hui sur l'état de la déchristianisation de l'Occident.
Alors, je précise, je vous remercie de poser cette question qui est pour moi très importante. Car j'ai un regard sur l'histoire chrétienne qui n'est pas le plus souvent celui de mes collègues historiens et même médiévistes. Car on nous a enseigné que le Moyen-Âge était chrétien. Et ça aussi bien à l'école privée qu'à l'école publique. Or, c'est à voir. C'est à voir. J'ai trouvé un jour, sous la plume de Georges Duby, qui a enseigné ici, l'affirmation que, avant le XIVe siècle, on ne peut pas parler d'Europe chrétienne.
Pourquoi ?
Parce que, dit-il, et je crois qu'il avait raison, c'était le christianisme d'une élite, l'élite qui gouvernait. Mais ce n'était pas forcément la religion des campagnes. Or, les gens du Moyen-Âge vivaient à la campagne. Et par conséquent, il faut maintenant se faire à l'idée que les historiens doivent d'ailleurs creuser, à titre d'hypothèse, mais d'hypothèse à mon avis féconde, il faut parler d'état de christianisation. Et avant les ordres mendiants, principalement dominicains et franciscains, donc avant le XIIIe siècle, et même Duby écrivait avant le XIVe siècle, l'Europe était en grande partie restée païenne sans le savoir, car il y avait un habillage chrétien, hein, mais sans savoir vraiment de quoi il s'agissait. Alors ça, c'est un regard, je dirais, révolutionnaire, et qu'il faut maintenant étudier de plus près.
Et qui fut dérangeant, un regard
très,
qui
très fut dérangeant. Mais en même temps, qui nous explique pourquoi dans notre Europe, et notamment en France, la déchristianisation actuelle est aussi rapide. C'est parce que la christianisation avait été, malgré le gros effort entre le XVIe et le XXe siècle, malgré ce gros effort, l'Europe n'avait été que superficiellement christianisée. Alors ça, enfin, c'est un vrai questionnement historique, mais vous savez que l'histoire avance par les questionnements. Et là, je tiens pour certain qu'il faut creuser cette hypothèse.
Et est-ce que ça peut nous éclairer, par exemple, là je pense aux pays plus récemment christianisés. Le cas du Rwanda, quand il y a du génocide, on a dit « Oui, ce pays certes est chrétien, mais c'est une christianisation superficielle. »
Eh bien écoutez, moi, l'hypothèse que je viens de formuler tout à l'heure s'applique à mon avis pleinement au Rwanda. Car avant les drames de la fin du XIXe siècle, on nous disait partout « le Rwanda est chrétien ». Et puis il y a eu le massacre épouvantable que vous savez. Alors à ce moment-là, tout est remis en question. De quel christianisme s'agissait-il ?
Et aujourd'hui, la déchristianisation en Europe, bon, elle a des causes multiples, mais est-ce que vous pensez que ça peut tenir à une connaissance incomplète ? Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie de connaître le christianisme ou la religion en général, s'immerger dedans.
Mais oui, mais ils n'ont pas envie parce que les parents eux-mêmes se sont détachés d'un christianisme qui leur avait été inculqué de façon un peu superficielle. Et en outre, inculqué avec un certain nombre d'erreurs, à commencer par tout ce qui concerne le paradis terrestre, l'évolution, etc.
La culpabilité aussi.
Alors, il y avait eu un excès de culpabilisation que nous ne pouvons plus maintenant supporter. Alors peut-être que, dans le sens inverse, on va peut-être trop loin.
Voilà.
Ça, ne me faisons pas dire ce que je ne dis pas. Mais il est certain tout de même que, entre une culpabilisation intensive et un enseignement qui partait du paradis terrestre et de la faute d'Adam et Ève, eh bien, on se trouve devant une situation de re-christianisation. Il nous faut re-christianisation avec les éléments que nous donne notre connaissance de l'antiquité humaine.
Et de la modernité, et les outils de la modernité.
Et de la modernité.
Passons au grand thème de votre vie, hein, de vos études, la peur.
La peur.
La peur, c'est vraiment très intéressant parce que c'était un domaine, effectivement, non exploré.
Voilà.
La peur dans l'Occident moderne.
En Occident moderne. Alors, voilà.
C'est-à-dire, donc, 14e siècle.
Oui. Voilà.
15e siècle.
Parce qu'on avait connu la peste, notamment au 5e et 6e siècle en Europe orientale. Mais en Europe occidentale et centrale, on avait oublié la peste. Donc, c'était une vraie découverte. Et une découverte catastrophique, avec les résultats que vous savez. On dit parfois le tiers, parfois la moitié de la population de l'Europe balayée en 3 ans. Vous vous rendez compte ?
On a du mal à imaginer. Oui.
Et oui, mais par exemple, si on se reporte aux pestes du 18e siècle, la dernière grande peste en France, c'est Marseille 1720. Nous avons les chiffres, en gros. Il y a eu 60 000 morts sur 120 000 habitants en 3 mois.
On imagine les fosses communes, les cadavres dans la rue. Tout. Alors, le lien entre ces grandes peurs, peur aussi de conditions climatiques qui vont être mauvaises pour la récolte, peur de la famine, des disettes. Bon, tout cela entraîne des révolutions urbaines, rurales, des guerres civiles. Le rôle de la religion par rapport à ces peurs, le lien en tous les cas, pas le rôle, mais le lien de la religion avec ces grandes peurs.
Pour les pestes, entre le 14e et le 18e siècle, parmi les causes, les gens d'église disaient « C'est parce que nous, nous conduisons mal, que Dieu nous punit. C'est la punition. Alors, c'était une explication qui expliquait dans les églises protestantes des prêches presque continues, en Angleterre par exemple, hein, des prêches presque continues pour essayer de conjurer la peste. Et en France, alors, des processions, des cérémonies diverses, etc. Hein, et par conséquent, on peut dire que le remède religieux était considéré comme le principal. Maintenant, il y en avait d'autres, quand même. Il y avait, on pouvait penser que il y avait des miasmes qui circulaient, envoyés d'ailleurs par les étoiles dont les conjonctions étaient mauvaises, donc ou encore que la peste venait d'un pays étranger qui était infesté. Par exemple, durant la peste de Londres de 1665, on a pensé que ça venait des Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, où la peste avait sévi juste avant. Et donc, il y avait communication par bateau. Bon, quoi qu'il en soit, la cause numéro un, hein, restait la cause des péchés.
Est-ce qu'on le retrouve, d'ailleurs, très bien, encore aujourd'hui? Je me souviens, en Haïti, lorsqu'il y a eu cet épouvantable tremblement de terre à Port-au-Prince, des personnes disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose de très mal. On le retrouve aussi en Afrique. Hein, ces explications.
C'est une explication qui vient spontanément presque à l'esprit.
Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous écrivez dans votre livre Jean Delumeau, dans votre livre L'avenir de Dieu, concernant les peurs, dresser un inventaire, même incomplet, des peurs ordinaires d'autrefois, notamment celles des classes populaires, c'est être conduit à mesurer combien la science, la technique et avec elle l'esprit critique nous ont libérés.
Mais par exemple, alors, passons si vous voulez de la peur de la peste à la peur de la mer. S'il y a un élément qu'autrefois on redoutait, c'était la mer.
Oui, océan funeste, oui.
Comment, élément funeste. Hein. Oui. Et par conséquent, autrefois, voyager en mer, mais c'était risquer sa vie au sens strict du terme. Par conséquent, on comprend que, ou plutôt, maintenant, il y a bien quelques accidents maritimes, mais enfin, il ne serait pas venu à l'idée des gens du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, de faire une croisière maritime, une croisière de tourisme. Ça, c'est une idée qui était totalement absente. Et comme disait un dominicain qui allait au chapitre de son ordre à Rome au milieu du XVIIIe siècle, hein, on n'est jamais trop près du rivage. Je veux un petit peu revenir en arrière, oui, pour dire que quand j'ai terminé mon second livre, c'est-à-dire celui sur la réforme catholique, oui, entre Luther et Voltaire, j'avais presque du temps devant moi, j'ai fait de la bibliographie. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'histoire de la peur. Enfin, il n'y avait pas, si vous voulez, une réflexion historique générale sur la peur. Alors j'ai pris la résolution de m'y mettre. Mais en réalisant que ça allait me mener loin, parce qu'en même temps je prenais la résolution de ne pas en rester à la peur. Et donc j'envisageais après déjà le sentiment de sécurité et l'histoire du paradis. Ça m'a pris plus de 20 ans de travail. Hein.
La peur, c'est la peur de la mort.
Ah, c'est la peur de la mort. Hein,
c'est la peur, elle tenaille toute l'histoire humaine. C'est évidemment la peur de la mort. Qu'auriez-vous envie de dire à vos contemporains, bah, vous qui avez quand même 92 ans, c'est le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, ou bien, bon, c'est plus compliqué que ça?
Oui, alors, d'une part, la peur, je dirais, la peur est une réaction naturelle devant des dangers.
Et puis elle fait avancer le progrès aussi, la peur.
Et les progrès font croître la peur. Car l'arsenal atomique qui est maintenant engrangé aux quatre parties du monde, hein, génère ou devrait générer des peurs plus fortes que toutes celles que nous avons connues. On peut faire disparaître la planète maintenant.
Oui, en même temps, on peut être guéri grâce à la technique, progrès de la médecine, de bien des maladies.
Oui, simplement. Ce qui est dangereux, c'est peut-être, ou probablement même, c'est qu'un jour, l'arme atomique tombe entre les mains de bandits, oui, comme ceux qui défraient la chronique maintenant.
Eh bien, on terminera naturellement, Jean Delumeau, sur votre conclusion, Inventer l'avenir, une conclusion aux accents très personnels. Je vais la lire. Il n'est pas déraisonnable à 92 ans de tirer les conclusions d'une longue vie de lecture et d'écriture et de passer du regard en arrière à la prospective. Deux affirmations de la poétesse Manique peuvent éclairer cette dernière démarche. Je viens du fond de mon enfance. Première remarque. Deuxième remarque, de réponse en question, j'ai beaucoup désappris.
Oui, bon, c'est vrai.
Je viens de mon enfance.
Comment ?
Éclairez-nous sur cette phrase.
Oui.
Alors, du fond de mon enfance.
J'aimerais ne pas beaucoup en parler.
Bon, alors, on n'ira pas plus loin sur cette
Merci.
Phrase.
Merci.
On va aller sur la seconde. Ouais. De réponse en question, j'ai beaucoup désappris.
Oui, alors ça, c'est exactement mon cas. Donc, c'est la poétesse Manique, c'est ça, hein ?
Oui, ah oui.
Oui, c'est, j'aime beaucoup cette phrase, hein. Parce que j'ai beaucoup désappris sur le paradis terrestre. J'espère avoir beaucoup désappris sur l'enfer, etc. Par conséquent, plus tout ce qu'il a fallu abandonner, des pseudo-connaissances scientifiques de la Bible, surtout de la Bible de l'Ancien Testament. Donc, on a beaucoup désappris, c'est sûr. Tant mieux.
Et du coup, vous avez désappris certaines peurs, effectivement, les peurs de votre enfance,
oui.
La culpabilité, l'enfer.
Voilà.
C'est une libération pour l'homme de...
Oui,
oui,
de, oui c'est de, une libération. Hein.
De penser que l'enfer n'existe pas tel qu'on nous l'a appris.
En tout cas, oui, c'est une grande libération. Et le purgatoire.
Et le purgatoire, oui. Si le paradis existe, le paradis après la mort, une vie après la mort, comment l'imaginez-vous ?
Alors, je me refuse à l'imaginer.
Pas de représentation,
non.
Là encore. Vous non, laissez
justement.
Ça à la peinture.
Alors, bon, la peinture, la sculpture, etc. ont beaucoup représenté le paradis,
oui.
Les chants aussi. Mmh. Hein. Mais maintenant, je pense que nous ne pouvons pas imaginer ce qu'est le paradis, mais il faut faire confiance à Dieu. Hein. Il saura trouver, comment dirais-je, la situation de bonheur à laquelle nous aspirons tous.
Est-ce que vous pensez que le christianisme... même si la déchristianisation fut un des grands thèmes de vos recherches, est-ce que vous pensez que le christianisme a de l'avenir ? Et si oui, où ?
Alors, justement, je crois qu'il a de l'avenir. Je crois qu'il a de l'avenir parce que l'évolution économique actuelle aboutit à la victoire d'un égoïsme financier absolument mortel pour la civilisation. Par conséquent, je crois que le pape actuel est dans la bonne voie et il faudrait que les grandes ce monde viennent dans cette voie de compréhension des besoins réels de la planète. Et ça ne peut venir que par un esprit d'humanité et je dirais même de charité.
Là donc vous pensez que l'encyclique du pape François est une sorte de vademécum pour l'homme de demain, c'est-à-dire arrêtons d'hyperconsommer.
Absolument.
Voyons la vie autrement.
Absolument. Je dois dire que je l'ai lue plusieurs fois et que je la trouve très belle et très intelligente dans la mesure où elle comprend bien d'où viennent les catastrophes actuelles, y compris les catastrophes climatiques.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.